Alors, je voudrais donc faire cette seconde, ce second cours, ce second enseignement sur les fins dernières, qu'on appelle eschatologie. En grec, eschaton signifie la même chose qu'en latin, de novis simi, c'est-à-dire les choses qui arrivent en dernier. Et ça renvoie en miroir à l'anthropologie, c'est-à-dire la création de l'homme, l'homme comme est bénéficiant d'une âme immortelle. Ça renvoie à la christologie, parce que cette âme, elle est pécheresse, elle a besoin d'être rachetée de nos péchés, donc, et Dieu veut nous diviniser. Et enfin, la morale, parce qu'on va être jugé sur nos actes. Donc, on va étudier, en fait, le passage, donc la mort, et avec le jugement particulier, puis le jugement général. Enfin, la fin, donc, ce qui peut être manqué, l'enfer, ou atteinte directement au paradis, ou avec un retardement au purgatoire. La mort. L'homme moderne, donc, s'étourdit par le divertissement, disait Pascal, pour ne surtout pas penser à sa mort. Déjà, on pratiquait l'hédonisme aveugle, donc vous savez, se perdre dans les plaisirs terrestres, dans l'Antiquité. Isaïe dit « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et vous connaissez sans doute Horace, le Carpe Diem, qui dit donc « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain », c'est-à-dire jouer du jour présent. Si vous avez connu le célèbre personnage du professeur dans « Le cercle des poètes disparus », c'était son motto, sa devise. La mort détruit donc le composé âme-corps qui caractérise notre nature humaine. Les deux n'existent que l'un pour l'autre chez les hommes. La mort fait donc l'œuvre inverse de ce que fait la naissance. Vous n'avez peut-être pas à l'esprit que donc naître, ça se dit nashi en latin, donc ça donne natus au passé composé, et ça va donner nashiturus pour par exemple les enfants à naître, et aussi natura, natus, natura, donc la nature humaine, c'est le début, mais en fait là il y a une destruction de la nature. L'homme même, donc, par la philosophie, comprend que la mort est une conséquence d'une faute dont il est coupable. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Le chrétien sait que la mort est le salaire du péché, dit Romains 6. Le matérialiste croit erronément que tout disparaîtrait avec la mort. Il refuse donc l'immortalité de l'âme, qui pourtant est globalement acceptée par les philosophes anciens comme Platon et Aristote. Mais le rituel d'ensevelissement, qui est le propre des civilisations humaines, donc nous montre que, justement, au contraire des animaux, l'homme a toujours considéré qu'il y avait quelque chose qui demeurait au-delà de la mort. Et Dieu a révélé ce point parce que, vous savez, la philosophie, c'est une chose, mais la théologie, elle doit quelquefois dire la même chose que la philosophie pourrait comprendre par la raison naturelle, mais pour être sûre, parce qu'avec le péché, elle peut se tromper, il y a besoin de la caution, on va dire, divine. Et donc Dieu a révélé ce point pour éviter l'ambiguïté. Et l'âme, donc, est immortelle car elle est un principe simple qui ne subsiste par lui-même. L'âme ne dépend du corps que pour avoir accès à certaines connaissances qui lui sont fournies par les sens, donc par exemple la vue. Mais pour saisir l'essence, là en un seul mot, donc la réalité profonde des choses, elle n'a pas besoin du corps. Et d'ailleurs, il y a des âmes séparées, donc après la mort, de leur corps qui continuent à avoir des opérations intellectuelles. Et les anges n'ont jamais de corps, et ça ne les empêche pas d'avoir des opérations intellectuelles. Donc l'homme occupe les confins entre le corporel et le spirituel, entre le temporel et l'éternel. L'âme séparée de son corps, après la mort, sort du temps continu pour entrer dans l'éternel présent des esprits qu'on appelle Evum, A-E collé, V-U-M, où on dit quelquefois la léviternité. La différence avec l'éternité, c'est que Dieu est éternel dans le sens où il n'a pas de commencement, pas de fin. Le Evum, il a un commencement, mais pas de fin. Donc, par exemple, un ange, il est créé à un moment par Dieu. Enfin, à un moment, à la création, ils sont tous créés en même temps, donc a priori le deuxième jour, en même temps que la lumière. Toujours est-il que donc ils ont un commencement, mais pas de fin. L'âme a un commencement au moment de la rencontre des gamètes des parents, mais elle n'a pas de fin. Donc, c'est un petit peu différent. Et donc là, ces âmes séparées donc, se voient intuitivement et elles connaissent Dieu, auteur de leur nature, comme dans un miroir. Ce n'est pas encore face à face. Elles pénètrent aussi donc, dans un temps discontinu qui mesure ses pensées et ses affections successives dans des instants spirituels qui suivent les idées acquises donc, dans la vie ou infusées après par Dieu. Donc l'âme, à sa mort, est figée, ça c'est très important, dans l'état dans lequel elle se trouve au moment de la mort. Et elle ne peut plus changer. Le propre de l'homme, on dit, c'est d'être un viator, c'est-à-dire un homme en chemin, un pèlerin, dans le monde ici-bas. Et donc, il peut faire des actes mauvais puis bons, et l'inverse. Donc, il peut changer. Tandis que quand on meurt, tout s'arrête. Les comptes s'arrêtent et sont, pourrait-on dire, oui, remis à zéro, en tout cas, pour pouvoir, pas remis à zéro, excusez-moi, compter, stabiliser pour être jugé à ce moment-là. Et donc, on appelle ça l'état de terme, au lieu de l'état de voie qui nous caractérise ici-bas. Donc, on ne peut plus, à la mort, ni mériter, ni démériter. Dieu prononce son jugement à l'instant même de la mort. Je cite Saint Jean Chrysostome, « Ce théâtre évanoui, il ne sera plus possible de mériter des couronnes. Maintenant, c'est le temps de la pénitence, alors ce sera le temps du jugement. » Il faut ici réfuter une opinion hérétique, mais répandue, sur ce qu'on appelle l'option finale au moment de la mort ou bien juste après. Un jour, je lisais dans Famille chrétienne, que je trouve correct par ailleurs, mais une chronique de Juliette Levivier qui défendait cette hypothèse. Donc je lui écris et je lui dis, voilà, elle a le droit de ne pas tout savoir aussi après tout, donc je lui donne les références bibliographiques, elle ne m'a jamais répondu, et c'est quand même triste, c'est qu'elle a son frère qui est l'évêque actuel de Saint-Étienne dans la Loire, et qui normalement était censé corriger ses papiers, mais quand même c'est quelque chose de dramatique, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que à l'ultime moment, donc à la mort ou juste après la mort, il y a une dernière possibilité de se sauver. Non, ça, c'est faux. Alors, il y a une thèse doctorat qui a été écrite là-dessus récemment, mais qu'importe. Donc, les bienheureux sont confirmés dans leur bien, et donc ils sont désormais impeccables, donc ils ne peuvent plus pécher. Les damnés, au contraire, sont obstinés dans le mal et sont donc incorrigibles. Et il y a un passage biblique qui évoque cela de manière symbolique. Qu'un arbre tombe au nord ou au midi, là où il est tombé, il restera. Et donc, il y a cette fixation. En effet, l'âme séparée, connaissant donc comme les purs esprits c'est Dieu et les anges et les démons, s'immobilise définitivement dans son choix initié par le dernier acte de la vie terrestre. Vous devez savoir par exemple que pour un ange, avec lequel je fais l'analogie, il n'y a qu'un seul acte au sens strict, c'est-à-dire que là, l'ange qui est pur esprit fait le choix de serviam ou non serviam, je servirai ou je ne servirai pas. Et donc ceux qui ne servent pas deviennent démons, et ceux qui servent sont les anges. Et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir une succession d'actes avec des remords, des pénitences, tout ça, comme pour nous, les hommes, chez les purs esprits, parce qu'ils sont en dehors du temps. Et là, donc, on sort du temps par la mort. Les damnés ne sont pas instruits pratiquement par leur malheur. Ils voudraient, bien sûr, ne pas souffrir, mais ils ne veulent pas revenir vers Dieu, qui est la seule voie, donc, pour la pénitence à travers l'humilité, l'obéissance. Ils refusent farouchement cela. Ils ne regrettent pas leurs péchés comme des fautes, et donc ça, ce sera un repentir. Non, non, ils regrettent que ça les fasse souffrir. Et donc, ils regrettent la peine. Et ça, c'est d'une certaine manière un remords, mais pas un repentir. Et donc, ça les laisse dans une révolte. Ils sont en colère parce qu'ils subissent les conséquences de leurs actes mauvais. On meurt finalement comme on a vécu. Malheur à celui qui ne veut faire pénitence qu'à la mort, sa conversion se ressentira de sa faiblesse, dit saint Augustin. Et là, en latin, c'est « penitentia quae ab infirmo petitur infirma est ». Donc ça veut dire la pénitence qui est demandée par l'infirme, le malade, est infirme elle-même. Ne vaut pas grand-chose. Donc, bien sûr, Dieu est capable, comme avec le bon larron, de permettre dans une grâce spéciale de sauver des gens au dernier moment, avant qu'ils ne meurent. Mais c'est quand même rare. Vous imaginez bien que, par exemple, pour les causes de béatification, nous étudions les vertus au degré héroïque pendant les 10 dernières années de la vie du serviteur de Dieu. Et donc, si on fait cela, c'est qu'on estime que si on a pu prouver ça vers la fin de la vie, et bien donc, la personne meurt comme ça. Parce qu'en fait, on croit que les vertus, c'est une disposition stable de l'âme. Et donc, quand vous avez stabilisé votre âme dans le bien, il n'y a pas de raison que vous, tout d'un coup, vous reveniez en arrière. C'est toujours possible. Hein. Même Saint François d'Assise avait dit à un moment quelque chose dans ce genre-là, vers la mort, comme quoi il se sentait toujours très fragile, etc. Mais quand même, il n'est pas tombé. Et donc, même Saint Thérèse qui a connu les affres d'une agonie en union avec les pécheurs. Et donc, du coup, C'est la même chose à l'envers pour les vices, évidemment. Et donc, il y a, à moins d'une grâce spéciale de Dieu, évidemment, mais qui est plutôt de l'ordre du miracle, normalement, on finit comme on a toujours vécu. Le jugement a lieu aussitôt après la mort. Ça a été défini par le pape Benoît XII, qui d'ailleurs se révoltait contre une décision d'un de ses prédécesseurs, Jean XXII, qui était donc un pape hérétique. Et ça a été encore défini au Concile de Lyon II en 1274. C'est jugé par le Christ, pas Dieu le Père. Il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps, dit l'Épître aux Corinthiens. Son exécution est immédiate aussi. Il n'y a pas que la sentence, parce que certains pensent que l'exécution de la sentence serait reportée, par exemple, à la fin des temps. Non. La parabole de Lazare et aussi le bon larron le montrent clairement. Tu seras aujourd'hui même avec moi au paradis. L'âme a une claire vision de la justesse de la sentence au moment donc de ce jugement particulier et de l'humanité de son juge. Elle voit le Christ que humainement. Parce que vous comprenez bien que si elle le voyait dans sa divinité, ce serait déjà d'une certaine manière avoir la vision béatifique. Or ça, c'est réservé évidemment à ceux qui seront admis au paradis. Donc, or là, celui qui est condamné à la mort de l'enfer, la mort éternelle, évidemment, il voit son juge, mais donc il ne peut pas le voir en tant que Dieu, il le voit en tant qu'homme. Bien, à la fin des temps, donc maintenant, là, on a parlé de la mort, la fin des temps, ce qu'on appelle l'Apocalypse. Donc, il y aura d'abord la résurrection des morts. Le credo affirme la résurrection de la chair, et celui qui n'y adhérerait pas n'est pas chrétien. Quand on voit le détail de certains sondages, c'est affligeant. Des gens qui se prétendent chrétiens, qui disent « je ne crois pas à la résurrection, je ne crois pas à la résurrection de la chair », bon, bah, tu n'es plus chrétien. Voilà. S'il n'y a pas de résurrection des morts, dit saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre évangile, vide est notre foi. Cela fut révélé progressivement dans l'Ancien Testament et ça a été clairement affirmé par le Christ. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc cette résurrection de tous les morts est convenable, comme on dit, ça c'est donc pour expliquer en théologie un raisonnement, pour trois raisons. Donc d'abord, il est contraire, dit saint Thomas, à la nature de l'âme d'être sans son corps. L'âme humaine est faite pour administrer un corps. Or, ce qui est contre nature ne peut pas durer toujours, dit saint Thomas. L'incorruptibilité n'était pas, donc le fait de ne pas mourir, n'était pas un donné voulu par Dieu dès le départ pour la nature humaine. C'était ce qu'on appelle un don préternaturel au jardin d'Éden. C'est-à-dire que c'était en dehors, préter, de la nature. Donc, en fait, c'est très simple. L'homme est un être composé, âme-corps. Mais même un être non composé, âme-corps. Donc, par exemple, un animal qui n'a pas d'âme. Âme au sens esprit intellectuel. Hein. Il a une âme dans le sens qui va lui permettre de se mouvoir, tout ça, mais c'est autre chose. Bien, donc bref, tout élément composé, bah, je sais pas, on est fait de différents atomes, etc. Tout élément composé, à un moment, est fait pour se dissoudre. Ça, c'est la métaphysique de base. Et donc, du coup, même au jardin d'Éden, donc, les animaux devaient mourir, si vous voulez. Mais l'homme avait reçu un don spécial, qui est donc le don de l'immortalité, qu'il a donc perdu par la chute. Donc cette incorruptibilité, elle est en fait quelque chose de donné par la grâce. Alors ici, avec la résurrection des morts, cette incorruptibilité va devenir l'âme définitive, évidemment. Et donc saint Thomas dit, en tant que rapporté à sa fin, que la matière soit proportionnée à sa forme, qui est sa fin. Donc, alors, si l'on considère la manière dont la nature humaine a été instituée par Dieu, la mort est comme un accident qui arrive à l'homme à cause du péché. Or, cet accident est supprimé par le Christ qui, par la passion, a détruit la mort en mourant. La deuxième raison est morale, c'est la justice de Dieu. Combien de méchants meurent sans avoir subi les peines dues pour leur péché et les bons sans avoir reçu ici-bas les récompenses pour leur vertu? Il est donc nécessaire que les âmes soient de nouveau unies à leur corps, parce que la résurrection finale, ce sera ça, Donc pour que les instruments, parce que c'est par notre corps qu'on fait du bien, donc que les instruments du bien ou du mal, pour les réprouver, donc partagent la récompense de l'âme. Et enfin, la troisième raison, le bonheur, c'est la perfection ultime de l'être qui est heureux. Or, l'âme séparée du corps est d'une certaine façon imparfaite, comme l'est toute partie en dehors de son tout. Et donc l'âme, même si elle est bien heureuse au ciel, elle va subir à la résurrection finale, à la fin des temps, au jugement dernier, une plus grande joie. Saint Thomas dit pas, non pas en intensité, parce qu'elle est comblée au maximum, mais en extension, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire rejaillir sa joie sur son corps. On discute encore parmi les théologiens pour savoir si ceux qui, lorsque le Christ reviendra sur terre, vivront à cette génération-là, si eux mourront ou n'auront pas besoin de mourir. Alors, les orthodoxes ne sont pas d'accord avec nous, donc je vous donne l'interprétation plutôt dominante chez les latins, donc saint Thomas d'Aquin, mais aussi un père grec comme Cyril d'Alexandrie, donc penche pour les gens qui mourront, eux aussi, à la venue du Christ sur terre, et ils entreront donc dans l'incorruptibilité par l'influx de la résurrection du Christ sur toutes les âmes et tous les corps. Mais ceux donc qui font le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui font le mal pour ressusciter et être jugés, dit Jean V. Donc il y aura un jugement général. Il convient que les conséquences sociales du bien et du mal que chacun aura fait, et qui ne s'arrêtent qu'avec la fin de l'histoire humaine, soient reconnues par tous, et qu'elles reçoivent leur juste rétribution. Il faut bien savoir que tous les péchés qu'on fait, tous les actes bons qu'on fait, seront connus universellement au jugement dernier. Ça devrait nous faire réfléchir. Jésus dit bien, tout ce que vous direz dans le secret sera proclamé sur les toits, etc. C'est à ça qu'il se réfère. Et donc, alors rassurez-vous, hein, tout le monde aura sa dose de péché, il ne sera pas très curieux de ceux des autres, mais en tout cas, il sera quand même content de voir que des gens qui, par exemple, auront été bafoués ici-bas, leur honneur aura été sali et peut-être seront morts sans avoir pu être restaurés dans leur dignité, et bien là, tout le monde pourra se réjouir donc de la vérité enfin connue de tous. Donc, il faut que la vérité soit sur chaque homme, donc dans ses rapports avec les autres, soit aussi établie, soit réparée l'honneur bafoué, la vertu méconnue des justes, que soient démasquées les réputations abusives et les vices insoupçonnés des mauvais. Il faut que publiquement des récompenses soient attribuées aux justes et des châtiments aux mauvais, aussi selon le corps avec lequel ils ont fait le bien ou le mal. Il faut enfin que soit rendue manifeste à tous la sagesse de la providence divine qui ordonnait les souffrances des bons pour leur progrès, et tolérer la prospérité des méchants pour qu'ils exercent les bons. C'est-à-dire que, en fait, quelquefois, les méchants ont un pouvoir sur les bons juste pour que les bons puissent progresser encore dans leur vertu. Mais évidemment, les méchants seront punis. On ignore absolument quand aura lieu la parousie. On dit parousie pour le retour du Christ. Toutefois, la tradition reconnaît habituellement des signes avant-coureurs. Donc, par exemple, la prédication réalisée dans le monde entier, et en l'occurrence aussi l'adhésion totale du peuple juif, Romains 11. Des persécutions culminant dans celle de l'Antéchrist et entraînant l'apostasie de beaucoup, d'après l'Épître aux Thessaloniciens. Des catastrophes cosmiques, alors soit c'est à comprendre au sens réel, soit au sens symbolique, ça n'est pas clair. Saint Pierre évoque une conflagration générale où l'ancien monde sera purifié et rénové par le feu. L'Église réprouve toutefois le millénarisme qui prévoirait un triomphe du Christ ici-bas durant 1000 ans avant donc le jugement dernier. Ça n'est plus accepté. La dernière partie du discours eschatologique en Matthieu 25 décrit de façon impressionnante que la mesure de notre jugement sera celle de l'exercice concret de l'amour de Dieu dans le rapport qu'on aura eu envers nos frères, qu'ils servent un petit peu de viatique. On a aujourd'hui complètement perdu le caractère de la tension qu'il y avait autrefois. Autrefois, les gens appelaient de leur vœu l'Apocalypse. Parce que, objectivement, quand on voit comment va le monde, personnellement, moi, j'ai tant qu'une chose, c'est qu'ils reviennent, qu'enfin triomphe la vraie justice. Mais, évidemment, on sait bien qu'il y a quand même beaucoup de tribulations avant. Et donc, dans l'Apocalypse, il est dit « Maranatha », ce qui veut dire « Viens, Seigneur Jésus », en araméen. Et donc, avant, il y avait vraiment ce désir, et maintenant, au contraire, ça nous fait peur. Voyons maintenant donc l'enfer. C'est évidemment la fin manquée. Alors je rappelle que croire en l'enfer, qui doit être éternel, c'est de foi. Celui qui ne croit pas à ça n'est pas catholique, il est hérétique. Il existe dans l'au-delà donc un juste châtiment pour ceux qui meurent en état de péché mortel. Alors le problème, c'est que le péché mortel Il est défini par trois catégories. Donc d'abord, la connaissance que l'acte qu'on va poser est mauvais, l'intention de faire cet acte-là, et enfin, donc, la liberté. Donc il y a deux critères objectifs, les premiers, et le troisième est plus subjectif quand même, parce que nous, les hommes, on ne sait pas exactement juger. Donc c'est Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs, et c'est pour ça que généralement, si vous voulez, l'Église ne pose des jugements que sur les actes extérieurs, ce qu'on appelle le fort externe d'ailleurs aussi. Donc par exemple, je ne sais pas moi, un adultère, c'est objectivement mauvais. Après, ou un avortement, c'est objectivement mauvais. Mais on pourrait imaginer qu'une jeune fille, admettons, avorte parce que sa famille fait pression sur elle, alors qu'au fond de son cœur, elle aurait voulu garder l'enfant. Bon, bah là, ça veut dire que si l'acte est objectivement mauvais, la responsabilité ne va pas tomber sur elle, mais sur ceux qui l'ont incité à cet acte-là. C'est pour ça que jamais l'Église ne damne les mémoires des gens. Vous savez, par exemple, qu'on fait des béatifications et canonisations, c'est-à-dire que l'Église engage d'une certaine manière son magistère sur qui va être, uniquement pour la canonisation, qui va être donc au ciel. Elle ne le fait pas dans l'autre sens pour qui est en enfer. Et ça, ça doit toujours, évidemment, nous éclairer. C'est-à-dire que dans d'autres civilisations, par exemple en Égypte, vous savez très bien qu'il y avait ce pharaon qui... alors, c'est lequel ? C'est... Akhenaton, je crois. Bref, en tout cas, qui voulait arrêter le polythéisme et voulait le culte d'Amon-Ra. Non, c'est Toutankhamon. Qui donc, voilà. Lui, donc, il a été damné, on dit damnatio memoria en latin, donc damnation de sa mémoire, c'est-à-dire qu'on a gratté partout son nom. C'est pour ça qu'on a pu retrouver son tombeau, d'ailleurs, simplement parce qu'on ne savait plus qu'il avait existé. Et donc, si vous allez aussi à Rome sur le Forum républicain, vous avez l'Arc de Triomphe de ses... je crois que c'est Dioclétien. Bon, bref, en tout cas, et où il a gratté le nom de Jette, son frère aussi, pour qu'on oublie leur existence. Donc, il n'y a pas de ça dans l'Église catholique. Alors, donc, l'éternité de la peine est une sanction pleinement efficace de la loi naturelle et vient de la nature même du péché mortel. Sa gravité comporte une certaine infinité à cause de la dignité infinie de Dieu qui est offensé. Ne requiert-il pas, selon la sagesse divine, pour son pardon, la mort de l'homme-Dieu ? Donc quand on voit le poids que Dieu a dû payer pour nous laver du péché, on comprend que la peine soit aussi grosse que l'éternité pour les damnés. Ce péché comporte donc un choix délibéré et de soi définitif. La volonté du damné se bloque volontairement dans un état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu. Le Christ fit ses révélations à Sainte Catherine de Sienne dans les dialogues. Aussi, je veux que tu saches ce qui arrive à l'instant de la mort à ceux qui, pendant leur vie, se sont mis sous la seigneurie du démon volontairement. Ceux-là n'attendent pas un autre jugement, mais eux-mêmes sont leurs propres juges avec leur propre conscience, et c'est en désespéré qu'ils se précipitent dans l'éternelle damnation. Ils se cramponnent à l'enfer par la haine. Croire que l'enfer serait vidé à la fin des temps. Ça, c'est une hérésie d'Origène qui s'appelle l'apocatastase. Et donc, il croit qu'à la fin des temps, il y aura une ultime permission donnée par Dieu de sauver les gens, y compris les démons, dit Origène. Et ça, c'est absolument faux. Ça a été condamné. Et il y a aussi donc une autre hérésie moderne de Hans Urs von Balthasar, entre autres, donc théologien très connu du XXe siècle, qui fait croire qu'il faudrait croire, que ce serait même une vertu d'espérance, donc espérer pour tous que l'enfer serait vide, qu'il existerait mais qu'il serait vide. Et ça, c'est absolument faux. Je tiens quand même à préciser que notre propre archevêque, dans un article publié dans Le Figaro, et j'ai la version qu'il a donnée lui-même au journal, ose écrire, et c'est hérétique, que donc l'enfer n'est pas fait pour les âmes humaines damnées. Il ose dire que l'enfer, c'est que pour les démons. Mais je vous rappelle quand même qu'en Matthieu 25, le Christ lui-même dit donc que celui qui a fait cela au plus petit d'entre mes frères, donc c'est à moi qu'il l'a fait. Puis donc il a dit allez avec Satan et ses démons. Donc ça dit, il parle à des hommes là. Donc c'est vraiment, je comprends pas qu'on puisse sortir des choses comme ça. Bref. Donc voyons maintenant la peine. Voilà, la peine du damne. Donc pour avoir choisi comme fin ultime quelque chose de créé, parce qu'en fait, celui qui refuse de servir Dieu, il va aimer quelque chose. On ne peut pas agir sans aimer. Si on fait quelque chose, c'est qu'on a envie d'avoir telle chose. Donc on désire, on aime la chose. Et donc si on ne choisit pas Dieu, c'est qu'on va choisir quelque chose de moins bien que Dieu, donc une créature. Et ça, donc, la punition pour ça, c'est la peine du dâme, D-A-M. Et donc, ça vaut pour le péché originel aussi. La faute est proportionnée à la peine, et le péché originel a supprimé quelque chose qui était donc donné, je vous ai dit, par la grâce, donc la vie éternelle. Les autres peines sont les peines sensibles, on va y revenir après, et elles sont dues pour les péchés actuels. Donc le péché originel, on est bien d'accord qu'on l'hérite. Avant même qu'on soit capable de poser un acte, de toute façon, on a le péché originel. Alors évidemment, c'est lavé par le baptême. Donc ça va expliquer que pour saint Thomas, les enfants donc, qui ne sont pas baptisés sont dans les limbes. Alors personnellement, je pense qu'on peut tout à fait parler d'un baptême de désir pour les parents qui, de toute façon, auraient fait baptiser leurs enfants. Mais je parle de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et donc là, ils ne peuvent pas accéder au paradis. Ils ont juste un bonheur qui est naturel, pas un bonheur surnaturel. Donc ils ne voient pas Dieu. Alors, donc là, revenons à notre peine du dâme pour les damnés, ce qui est autre chose quand même. Donc c'est le pécheur, donc, voulait un bonheur sans limite, mais il haïssait la loi qui permettait d'atteindre le bonheur, parce que le bonheur sans limite, c'est Dieu. Donc Dieu s'est retiré de lui lors du péché mortel. Le péché mortel, ça rompt la grâce sanctifiante. Et s'il n'a pas été, bien sûr, rétabli par une confession valide. Et donc le damné se rend compte désormais de la perte infinie et définitive de cet état de grâce. Donc je ne vous connais pas, dit le Christ au réprouvé. C'est une solitude, une incapacité à aimer radicale, un isolement infini. Le malheur, dit Bernanos dans le journal d'un curé de campagne, l'inconcevable malheur de ces pierres embrasées qui furent des hommes, c'est qu'elles n'ont rien, plus rien à partager. C'est aussi un déchirement antérieur entre un vœu profond de bonheur et la haine de la loi d'humilité qu'il aurait fallu suivre, donc d'obéir au commandement divin. Il faut, dit saint Bernard, que ne puisse jamais rien obtenir de ce qu'il veut, celui qui ne s'est jamais soucié en rien de ce qu'il doit. C'est enfin un endurcissement éternel dans le refus, qui exclut donc toute amélioration possible pour l'éternité. Dante écrit bien dans, vous savez, l'Enfer, la Divine Comédie, c'est au-dessus, l'entrée de l'enfer, « Vous qui entrez, laissez toute espérance ». Donc ça, c'est une chose, la peine du dâme. Après, il y a la peine des sens. Donc je vous ai dit, ça c'est pour les péchés actuels. Ce qu'on commet volontairement. Donc, le péché, c'est un détournement de Dieu pour se tourner vers les créatures. On dit « aversio ad Deo, conversio ad creaturas ». Et donc, là, on est puni par les sens. Cette peine, à l'image des créatures, donc, est variée, suivant la variété des péchés. Comme toute créature sera pour les bienheureux une cause de joie, parce qu'elle aurait été pour eux une aide pour exercer l'amour envers Dieu et le prochain. Ainsi, pour les damnés, les autres créatures seront une cause de tourment, en tant qu'elle aurait été l'instrument de leur faute contre Dieu et le prochain. Elle comporte cette compagnie des âmes damnées, donc aussi celle des démons. L'horreur du lieu, et après la résurrection, il y aura une douleur dans tous les sens, parce qu'après la résurrection, ils auront leur corps qui fera qu'ils souffriront aussi sensiblement. Le feu, donc, est une peine positive et extrinsèque. C'est pas à entendre au sens spirituel. Le feu, donc, est une réalité distincte de la douleur dont il est la cause. L'âme damnée, avant la résurrection, donc, se trouve liée. Elle est ligotée en un élément inférieur qui lui impose un lieu qu'elle appréhende comme l'étant nocif. Vous savez, quand le mauvais riche dit à Abraham « Je suis cruellement torturé dans cette flamme ». Alors, on peut se poser la question, comment des âmes séparées, donc qui n'ont pas de corps, par définition, puisqu'elles sont mortes, plus de corps, comment donc elles peuvent souffrir? Parce qu'on souffre par notre corps, quand même, d'abord. Je parle d'une peine des sens. Et donc, a fortiori, un démon qui n'a jamais eu de corps, comment est-ce qu'il peut souffrir? Alors, en fait, c'est que il faut comprendre les choses de la bonne manière. Donc, nous, on est donc en composé âme-corps. L'âme donne vie au corps, mais elle emporte aussi des fois le poids. La fatigue, par exemple, du corps peut se répercuter sur l'âme. L'âme, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas donc, l'union de l'âme damnée avec le lieu de l'enfer. Elle est plutôt donc, comme on peut dire quand on vit et qu'on est dans une prison. On voudrait s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Et donc, il est dit justement... Le corps devient par là le châtiment de l'âme, lui interdisant l'exercice de sa volonté, l'empêchant d'agir où elle veut et comme elle veut. Saint Augustin dit aussi que, de même que dans l'homme, l'âme est unie à un corps, malgré leur différence de nature et en conçoit pour lui un violent amour, de même, unie au feu, comme la victime à son bourreau, elle en conçoit une indicible horreur. Si l'on s'inscrit dans le courant de pensée, vous savez, de ceux qui estiment que les démons se sont rebellés contre Dieu à leur création parce qu'ils avaient donc la perception que le Fils de Dieu allait s'incarner. Et donc ça, ils n'acceptaient pas dans cette interprétation que Dieu, qui est au-dessus des anges, s'abaissa au-dessous des anges en prenant une nature humaine. Parce que vous comprenez bien qu'il y a Dieu, les anges et les hommes. Et donc, le Christ a perverti cette hiérarchie légitime. Perverti, non, sublime, devrais-je dire. Bref. Et donc, du coup, ça a énervé certains anges qui sont donc devenus les démons. Mais donc là, vous comprenez qu'ils sont punis par la même où ils ont péché. Parce que eux qui méprisent le corps... Bien sûr, ils n'en auront pas, même à la résurrection finale, puisqu'ils ne vont pas changer de nature. C'est des anges damnés, donc des démons, ils vont rester des êtres spirituels. Mais ils vont avoir ce poids que le corps peut donner, qui est donc celui d'être lié à un lieu qu'ils ne voudraient pas voir et souffrir. Après le jugement dernier, donc, les peines des damnés s'accroissent par une douleur sensible. À la manière d'un buisson ardent, donc ces corps des damnés ne sont jamais consumés par le feu. Vous voyez, ils brûlent, mais ils ne sont pas consumés, comme le buisson de la révélation divine de Moïse. Je sentis dans mon âme, dit Sainte Thérèse d'Avila, qui a une vision de l'enfer dans sa vie. Donc je sentis dans mon âme un feu dont je suis impuissante à décrire la nature, tandis que mon corps passait par des tourments intolérables. De plus, je voyais que ce tourment devait être sans fin et sans relâche. Dans ce lieu si infect, d'où le moindre espoir de consolation est à jamais banni, il est impossible de s'asseoir ou de se coucher. L'espace manque. J'y étais enfermé comme dans un trou pratiqué dans la muraille. Les parois elles-mêmes, objets d'horreur pour la vue, vous accablent de tout leur poids. Là, tout vous étouffe, il n'y a point de lumière, mais les ténèbres les plus épaisses. Et cependant, chose que je ne saurais comprendre, malgré ce manque de lumière, on aperçoit tout ce qui peut être un tourment pour la vue. Les damnés, à cause de leurs péchés actuels, donc souffriront de multiples manières, après la résurrection finale, aussi dans leur corps. Autant l'âme au purgatoire ne souffre que la peine du feu, autant l'âme en enfer souffre d'autres peines encore. Cela tient à la logique même. Ils ont été dispersés en désirant plein de choses. Et bien là, ils seront comme punis par plein de choses aussi. Donc, par exemple... même après donc, la conjonction des âmes à leur corps, on a ce qu'on appelle la peine des vers. Et donc, c'est à comprendre comme des remords de conscience. La chair est torturée par le vers spirituel, dit saint Thomas, parce que les souffrances de l'âme rejaillissent sur le corps, ici-bas et dans l'au-delà. Ce rejaillissement donc, fait le parallèle avec le rejaillissement que j'évoquais tout à l'heure des âmes bienheureuses qui veulent que leur corps participe à leur joie. Les pleurs aussi seront présents, donc, parce que le Christ dit bien, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est dans le sens que, en fait, ils paieront l'ancienne délectation de la faute. Alors, voyons maintenant le purgatoire. Le purgatoire, c'est la fin atteinte. Donc, on va aller au paradis, mais pas tout de suite. Donc, elle est différée. Le dogme catholique, et donc c'est bien un dogme, donc on doit y croire seulement hérétique, enseigne que les âmes de ceux qui décèdent en état de grâce, mais ne sont pas encore totalement purifiées, donc il reste des traces, des conséquences de leurs péchés, doivent achever leur purification dans l'au-delà, et donc avant de pouvoir paraître au ciel. Ça a été défini par les conciles de Lyon II, de Florence et de Trente. Et ça a été défini contre les orthodoxes qui là-dessus ne sont pas nets, donc ils ne sont pas que schismatiques, ils sont aussi hérétiques, et les protestants. Alors, cela s'enracine dans la Bible, évidemment. Alors, peut-être avez-vous en tête un passage, mais pas très très connu, du second livre des Maccabées, où il y avait une bataille, et puis en fait moururent ceux qui avaient des amulettes, c'est-à-dire qui vouaient un culte idolatrique. Et donc là, je crois que c'est Judas Maccabée, donc fit offrir un sacrifice pour le péché des morts. Or, on est bien d'accord que si ils peuvent pas être purifiés parce qu'ils sont déjà morts, quel est l'intérêt ? Donc, parce qu'on est bien d'accord que si vous priez pour le repos de l'âme de quelqu'un qui est en enfer, ça ne sert à rien. Et donc, Dieu va pas perdre cette bonne action que vous posez, bien sûr. Il va le redistribuer à une âme du purgatoire qui, elle, en a besoin. Mais on est bien d'accord que là, Dieu a inspiré un saint désir à Judas Maccabée. Et d'ailleurs, le Christ lui-même va évoquer cette possibilité d'une purification dans l'au-delà. Il est dit à propos du péché contre l'esprit qui ne sera remis ni dans cette vie ni dans l'autre. Donc il y a bien une rémission possible post-mortem, mais simplement quand la grâce n'a pas été totalement enlevée, mais juste affaiblie, donc un péché non pas mortel, mais véniel. Enfin donc, quant à lui, il sera sauvé, non, mais comme à travers le feu, dit l'Épître aux Corinthiens, et donc là, le feu purificateur, c'est celui purgatoire. Donc lorsqu'un homme qui a péché gravement, par exemple, retrouve la grâce, le détournement envers Dieu donc cesse et la peine éternelle lui est remise par l'absolution. Il reste cependant à expier quelque chose, la peine temporelle due pour le péché, ainsi que l'attachement désordonné à la créature. Et en fait, il s'agit d'éliminer toute la rouille, si vous voulez, de l'âme. Et donc, cette purification, les scories de l'âme, se fait par le feu. Donc, rien de souillé ne peut entrer, dit l'Apocalypse, dans la Jérusalem céleste. On peut, ici-bas, vous savez, satisfaire toutes les peines dues pour les peines temporelles, dues pour nos péchés. Mais elles devaient donc proportionner au mal commis. Et donc, mais dans certains cas, on n'a pas le temps d'expier tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des œuvres de pénitence ici-bas, évidemment, pour éviter le purgatoire. C'est une doctrine logique, donc, qui découle nécessairement du reste. En effet, saint Thomas dit dans le traité du mal, « Sans quoi, dans l'hypothèse où la peine qui n'est pas accomplie ici-bas ne serait pas accomplie dans le monde à venir, le sort de ceux qui négligent de faire pénitence serait meilleur que le sort de ceux qui en ont le souci. » Vous comprenez bien. Donc, ce ne serait pas juste. C'est pour ça que le purgatoire est logique. Donc, au purgatoire, vous avez différentes peines, comme en enfer. Donc, il y a d'abord la peine du dâme, c'est-à-dire que vous ne voyez pas encore Dieu. Vous allez le voir, mais pas encore. Donc, tant que vous êtes privé. Donc là, on se rapproche un peu de celle des limbes, sauf que, bien sûr, les limbes, c'est définitif. Là, c'est juste provisoire. Bien. En tout cas, donc, il ne voit pas Dieu encore. Donc, l'âme sait que c'est par sa faute qu'elle ne voit pas encore Dieu face à face, et donc elle est dans la vérité divine qui lui fait comprendre tout dans le détail, les circonstances, tous ses manquements, et donc elle adhère librement, joyeusement même, à sa peine. Alors que le réprouvé en enfer, lui, ça le dégoûte, il est en colère contre la justice divine. Mais là, l'âme, elle est heureuse parce qu'elle comprend parfaitement que c'est juste et elle sait bien que de toute façon, c'est provisoire. Alors, du provisoire qui peut durer longtemps, parce que certaines âmes sont purgatoires jusqu'à la fin des temps. Quand on dit la fin des temps, c'est jusqu'au retour du Christ, donc il y aura une fin, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Ce sera peut-être 1000 ans ou plus. Donc, je cite sainte Catherine de Gênes, qui est une grande sainte italienne qui a fait un traité du purgatoire. L'âme qui, se séparant du corps, ne se trouve pas dans toute la pureté où elle a été créée, et qui voit que cet obstacle, qui l'empêche de retourner dans cette pureté et de se réunir à sa dernière fin, ne peut lui être ôté que par les flammes purgatoires, s'y jette avec d'autant plus d'impétuosité. Elle est heureuse d'être enfin purifiée. Et il y a aussi une peine des sens, donc, à travers le feu purificateur, justement. Alors, on ne sait pas très bien si c'est à comprendre au sens métaphorique ou réel, mais en tout cas, c'est une vive souffrance. Ce qui fait que dans la messe, on dit au canon, on prie pour un lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix. Alors, personnellement, j'ai employé quelquefois l'image suivante, que quand il fait très froid, vous êtes, et que vous rentrez chez vous, vous êtes content d'être auprès du feu, mais en étant auprès du feu, le contraste thermique fait que quelquefois, les extrémités des doigts, des oreilles, du nez vous brûlent. Eh bien, donc, vous avez la joie d'être déjà, je dirais, presque arrivé, mais la transition est quand même douloureuse. Pour Sainte Catherine de Gênes, donc, les souffrances sont des tourments si grands et si terribles qu'il n'y a ni langue qui les puisse exprimer, ni entendement qui ne puisse concevoir la moindre étincelle. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Leur intensité répond à la gravité des fautes, la durée, qui n'est pas celle de la terre évidemment, au degré que le pécheur avait mis d'affection dans ses fautes. Mais elles sont d'une nature très différente des souffrances de l'enfer, parce qu'elles ne comportent pas l'anxiété, pas l'horreur, pas l'impatience. Elles sont imprégnées d'une certaine paix et même d'une joie. La plus grande consolation, en effet, est celle de ne plus pouvoir pécher. Quand vous mourrez, c'est fini, vous ne pouvez plus rajouter sur la liste de vos péchés, donc ça, c'est déjà une joie. Parlons maintenant des indulgences. Les âmes du purgatoire, donc, peuvent être aidées par nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle offrir des suffrages. Donc, le sacrifice de la messe, bien sûr, qui est la plus grande aide, parce que nous, on peut prier, on peut réciter des litanies, faire des actes de pénitence, des pèlerinages, des aumônes, des jeûnes. Mais, évidemment, nous, on est toujours un peu pécheurs, donc ça ne sera jamais parfait. Tandis que le Christ, là, quand il offre la messe, évidemment, c'est parfait. Et donc, ces âmes sont soulagées aussi par ce qu'on appelle l'indulgence. Donc, il a peine, la remise, soit partielle, avec des nombres de jours, de mois, d'années, comme on faisait autrefois maintenant avec la réforme, on dit juste partielle, sans se prononcer sur la durée. Donc, partielle ou totale, des peines temporelles dues. Et donc, par exemple, une indulgence, vous pouvez la garder soit pour vous, soit l'offrir pour un défunt, jamais pour un autre vivant. Parce que le vivant, il n'a qu'à le faire lui-même, tout simplement. Et donc, les indulgences peuvent s'obtenir, par exemple, tout simplement, en récitant le chapelet, en adorant, mais pas très longtemps, 20 minutes d'adoration, je crois que ça doit être dans la liste des indulgences, en assistant à la première communion d'un enfant, etc. Donc, en fait, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, on passe à côté de plein d'indulgences. Et donc, on n'est pas très juste parce que, finalement, on gâche le trésor des grâces qui pourrait nous permettre d'aider plein de gens. Et donc, c'est un acte de charité vraiment pas si compliqué, qui nous vaudrait évidemment en retour leur aide. Alors là, je veux préciser une chose. Beaucoup de gens disent que les âmes du purgatoire peuvent nous aider. Personnellement, je crois que c'est faux. Alors, j'ignore pas que saint Robert Bellarmin le pense, mais saint Thomas dit que c'est faux et moi je suis thomiste. Et je réfléchis quand même aussi, évidemment, par moi-même, je ne suis pas qu'un robot répétant ce que dit saint Thomas. Alors, prenons l'image biblique. Quand vous avez le Christ qui remet les péchés du grabataire, il n'est pas cru. On lui dit qui est celui-là pour remettre les péchés. Donc, pour convaincre les pharisiens et les scribes qui assistent à la scène, il va lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi ». Bien. Alors, je vous rappelle que le grabataire, il est amené par le toit, on défait les tuiles, tout ça, pour amener le grabat au pied de Jésus. Et donc, ce geste-là, des amis du grabataire qui le portent jusqu'à la maison, qui les font escalader, puis après descendent par des cordes, ça, c'est l'aide que vous pouvez apporter aux âmes du purgatoire. Mais le grabataire, par définition, il ne peut pas bouger. Il est mort, il ne peut plus rien faire. Et donc, par contre, les autres peuvent mériter pour lui. Et donc, si vous l'appliquez maintenant, saint Thomas dit, « Ceux qui sont en ce monde ou dans le purgatoire ne jouissent pas encore de la vision du Verbe. Ils ne peuvent donc pas connaître ce que nous pensons ou disons. C'est pourquoi nous n'implorons pas leur suffrage par la prière, sinon en ce qui concerne les vivants, par nos demandes. » Parce que là, vous pouvez le dire vous-même. Une autre citation, « Ceux qui sont au purgatoire, bien que supérieurs à nous par leur impeccabilité, sont en état d'infériorité s'ils considèrent les peines qu'ils souffrent. À ce point de vue, ils ne sont pas en état de prier, mais plutôt que l'on prie pour eux. » C'est clair, net et précis chez saint Thomas. Le paradis. La vie éternelle est le but de toute vie humaine. L'éternité n'est pas une succession, disait Benoît XVI dans Spe Salvi, n'est pas une succession continue de jours de calendrier, mais quelque chose comme le moment rempli de satisfaction dans lequel la totalité nous embrasse et dans laquelle nous embrassons la totalité. Il s'agirait du moment de l'immersion dans l'océan de l'amour infini, dans lequel le temps, l'avant et l'après n'existent plus. Ce moment est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, tandis que nous sommes comblés de joie. La vision face à face de Dieu, du seul vrai Dieu, donc dans son mystère intime tel qu'il est dans la Sainte Trinité, donc comble d'une joie indicible, et apporte un repos éternel donc aux âmes bienheureuses. L'homme est ainsi divinisé, il est rendu participant de la nature même de Dieu. La lumière de gloire achève ce que la grâce sanctifiante reçue au baptême ou restaurée après une confession valide donc avait commencé. La vision de l'essence divine comporte aussi pour l'élu la connaissance parfaite de son propre moi. Si je traduis au sens grec du terme, la première épître aux Corinthiens, il dit « Je superconnaîtrai comme je suis superconnu ». Cette connaissance est symbolisée par la réception dans l'Apocalypse d'un caillou étincelant où est écrit le nom d'éternité de chaque élu, c'est-à-dire le mystère de sa personnalité éternelle, enfin définitivement épanouie. Au ciel, nous nous connaîtrons pour la première fois à l'endroit, dans l'acte créateur de Dieu, et non plus seulement à l'envers, par nos propres actes. Chacun des élus vit alors dans le Christ, et c'est en lui qu'il acquiert sa vraie dimension. Alors, bon, je vais citer une citation de Guardini, vous pourrez la lire chez vous. « Le ciel, c'est donc le Christ et son corps mystique triomphant, décrit par saint Jean, sous l'image d'une ville mystérieuse, la Jérusalem céleste, qui est illuminée par Dieu, dans son humanité glorifiée. » Il est un petit peu comme le flambeau de verre de la divinité. Bon, là, c'est Apocalypse 21, vous pourrez aussi lire chez vous. « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. » Ça implique donc un renouveau cosmique. Alors, le mot « paradis » est un mot persan qui signifie « jardin ». Il est à comprendre comme quelque chose de différent du jardin d'Éden, évidemment. C'est un paradis terrestre. Là, on parle d'un paradis céleste. Cette vision divine qui est béatifique et béatifiant, donc qui rend heureux, est commune à tous les élus. Et ça, je pense qu'on peut appliquer la parabole des ouvriers de la 11e heure quand il dit, en fait, il donne finalement le même salaire. Et ben, c'est tout simplement qu'au ciel, vous voyez Dieu ou vous ne le voyez pas. Enfin, je veux dire, vous êtes au ciel ou vous n'êtes pas au ciel. Donc, vous voyez Dieu ou vous ne le voyez pas parce que vous êtes en enfer. Et donc, du coup, Dieu, il ne peut pas se diviser. C'est pour ça qu'il y a, par certains côtés, une récompense qui est identique pour tous. Mais à côté de ça, il y a quand même une hiérarchie. Alors donc, pourquoi ? Les saints, donc, voient Dieu avec plus ou moins de profondeur, d'acuité, selon les degrés de charité qu'ils avaient au moment de leur mort, qui va conditionner leur degré de gloire au ciel. Il est un principe fondamental chez saint Thomas, tout ce qui est reçu à la manière du récipient. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une grande carafe ou un grand bidon, vous allez avoir beaucoup plus de capacité de réception qu'un petit dé à coudre. Donc au ciel, tout le monde est comblé, et ça, c'est l'aspect commun à tous, mais après, la capacité de chacun est quand même différente. Mais même en dehors des âmes bienheureuses de mort, les anges bienheureux, eux aussi, sont en hiérarchie. Donc c'est-à-dire qu'il y a 9 cœurs des anges, vous savez, il est bien évident que les anges supérieurs, comme les séraphins ou les chérubins, ont une capacité de compréhension du mystère divin plus élevée que l'ange du 9e cœur. Et d'ailleurs, ils sont heureux de partager aussi c'est ce qu'on appelle l'illumination angélique. Sauf qu'après, un prof, il mâche le travail pour que les élèves comprennent. Il prédigère l'intellect. Eh bien, les anges qui illuminent les anges inférieurs, ils font cela. Mais après, si le gamin ne peut pas comprendre, eh bien voilà, il ne peut pas comprendre. Eh bien, les anges, il y a des moments, c'est juste qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais ils sont heureux parce qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent atteindre. Alors, maintenant, les propriétés des corps glorieux. La subtilité. Le corps est subtil, parfaitement soumis à l'âme. Il aura part autant que possible à ses propriétés. L'âme, en métaphysique, c'est la forme du corps. Elle pénètre jusqu'en son plus intime, jusqu'au moindre recoin. Plus rien n'échappe du corps. Alors là, je parle évidemment quand il y a la résurrection finale. Donc, plus rien du corps n'échappe au contrôle de l'âme. Alors que vous savez très bien, il est dit par saint Paul, ce corps de mort, malheur à moi, je ne fais pas ce que je voudrais, tout ça. Bon, ben là, le corps fait exactement ce que l'âme veut qu'il fasse. Un esprit subtil est celui qui pénètre jusqu'aux principes intimes et aux qualités cachées des choses. Une vue subtile est celle qui est aperçue en objet très petit. Et donc, l'âme, le corps subtil, il est capable d'être totalement obéissant pour l'âme. Donc, cela s'accompagne aussi d'une perfection dans l'agir, donc l'acte second. Ça, c'était l'acte premier, la subtilité. Donc, on parle d'agilité. Après la subtilité vient l'agilité. Et donc, ça n'est pas que pour le corps. Vous savez que le Christ est capable de passer à travers les portes. Eh bien, donc ça, c'est aussi l'agilité, mais ce n'est pas que ça. C'est en tant que l'âme est moteur. Pour qu'il soit effectivement rapide, l'esprit est habile à obéir en tous ses mouvements et à toutes les actions de l'âme. Cette agilité donc prend le contre-pied du labeur écrasant qu'on a quelquefois dans cette vallée de larmes. La division intérieure donc est surmontée finalement par cette agilité aussi. La clarté, enfin, troisième propriété, donc, aura pour cause le rejaillissement de la gloire de l'âme sur le corps. Ce qu'un être reçoit, il le reçoit selon sa nature à lui, et non pas selon la nature de l'être qui le communique. Donc la clarté est spirituelle dans l'âme, elle sera corporelle dans le corps, et elle sera proportionnée au mérite. La clarté du corps manifestera donc la gloire de l'âme comme un vase de cristal reflète la couleur de l'objet qu'il renferme le vase. Donc les élus auront un corps glorieux, lumineux, diaphane, on dit aussi, qui reflétera les nuances propres de leur histoire de grâce. Donc en fait, c'est lié. Alors là, il y a des nuances entre les corps glorieux. On a ce qu'on appelle les fruits, qui seront définis suivant les états par rapport au mariage. Donc quelqu'un qui a l'état de virginité a un état plus élevé au ciel. Le mariage vient aussi même après la viduité, c'est-à-dire donc quelqu'un qui reste veuf, qui ne se remarie pas. Donc, et le degré donc, sinon du mariage, donc ça fait 3 degrés possibles. Donc en fait une virginité dès le début, une chasteté à partir du moment de la viduité ou la vie normale d'un couple. Donc ça c'est les fruits. Après vous avez les auréoles qui sont fonction de la place dans l'Église. Par exemple dans un missel vous avez le commun des docteurs, le commun des vierges, le commun des martyrs, des confesseurs, etc. Ben, c'est en gros cela, les auréoles. Voilà. Et après, donc, une autre propriété. Donc, tout ça, c'est lié à la clarté, d'accord ? Et la quatrième propriété, c'est l'impassibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas souffrir la passion. Voilà. Et donc, je suis obligé de supprimer quelques petits passages. Donc, en gros, donc, en conclusion, je voudrais reprendre cette prière toute simple. Que je ne sois, ô mon Jésus, séparé de ton ineffable gloire, que je n'ai pas, ô Jésus, le sort des réprouvés mis à ta gauche, mais toi, ô mon Christ Jésus, place-moi parmi les brebis à ta droite et accorde-moi dans ta miséricorde l'éternel repos. Alors, je voulais dire que j'ai bien sûr amélioré le texte, mais je suis considérablement inspiré. En fait, j'ai résumé un article du père de Blinière, le fondateur donc, de Chéméré-le-Roi, dans une parution de Cedes Sapiensi, leur revue, mais qui faisait 37 pages, donc je vous ai résumé ça. Et j'ai ajouté quand même un peu de moi-même, tout ce qui. Parce que lui, il va très très vite sur les corps glorieux, sur les peines des sens, etc., de l'enfer, et je voulais détailler cet aspect-là en regardant chez saint Thomas d'Aquin. Donc disons pour conclure une toute petite prière qu'on avait à la grégorienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-elle. Nos cum prolepia benedicat Virgo Maria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.